Interview.
1 interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous à l'écoute de Radio Diwa sur le 107.5 FM et le www.rdwa.fr. Je reçois aujourd'hui Robert Delors, enseignant en langues anciennes au Collège du Diwa. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu aujourd'hui dans le studio de Radio Diwa pour nous parler de la dernière et prochaine surtout réforme du Collège. Vous faites partie d'un collectif d'enseignants qui s'y oppose. Vous avez organisé une réunion qui aura lieu le mardi 10 novembre à la salle polyvalente de Die. Et vous venez aujourd'hui nous expliquer pourquoi vous vous opposez à cette réforme.
Oui, tout à fait. Alors on organise une réunion d'information, une réunion publique pour tous les gens qui s'intéressent à l'avenir du collège, pour leur expliquer un petit peu en quoi consiste cette réforme du collège. On sort de 40 ans de collège unique et on va s'orienter vers une réforme du collège qui va durer peut-être aussi longtemps, qui va peut-être concerner les enfants de nos élèves. Et donc, il nous apparaît important de montrer en quoi cette réforme pose des problèmes d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue de l'organisation des collèges.
Concrètement, cette réforme, elle concerne toutes les disciplines ?
Alors c'est une réforme qui est absolument gigantesque puisqu'elle concerne tous les niveaux et que non seulement on va changer l'organisation de tout le collège, mais en plus on va changer en une seule et même année tous les programmes de toutes les disciplines sur tous les niveaux.
Alors le changement n'est pas forcément négatif. En quoi ces changements-là vont impacter de manière négative sur votre enseignement et puis surtout sur ce que vont recevoir les élèves ?
Alors si vous voulez, c'est une réforme qui, contrairement à ce qu'on a entendu dans tous les médias nationaux, n'est pas une réforme pédagogique, mais une réforme avant tout économique et même idéologique, j'ai envie de dire. Et donc, si vous voulez, c'est une réforme qui consiste à faire des économies en transformant un petit peu l'organisation du collège de façon à cacher un petit peu la pénurie d'enseignants. On va gérer en créant des dispositifs comme des enseignements pratiques interdisciplinaires qui vont permettre de faire un petit peu de la gestion de ressources humaines avec les enseignants dans les collèges.
C'est la suite de réformes précédentes qui démantelaient l'enseignement et qui le rendaient difficile. Aujourd'hui, ça semble être la goutte d'eau. Est-ce que vous allez pouvoir continuer d'exercer votre métier si cette réforme est réellement appliquée ?
Alors, pour ce qui concerne les profs de langues anciennes, ça n'est pas une suppression du latin et du grec, mais c'est un démantèlement progressif. Donc, il n'y a plus d'heures disciplinaires pour le latin et pour le grec. Ils vont devoir aller mendier des heures pour pouvoir créer ces enseignements pratiques interdisciplinaires de langue et culture de l'Antiquité. Ensuite, il y a de réelles craintes aussi pour les professeurs de français, de lettres, puisque les professeurs de lettres classiques redevenant professeurs de français, il y a beaucoup de professeurs, les derniers professeurs de français lettres de chaque établissement qui sont arrivés dans chaque établissement dernier vont être mutés, vont subir une mutation bien malgré eux.
Une mutation de quel type ? On les envoie où ? On en fait quoi ? On leur demande ?
Ah, c'est une bonne question parce que il y a en France 93% d'établissements qui proposent du latin et ou du grec. Et ça représente donc 6500 établissements sur 7000 collèges. Et donc ça veut dire que il y a peut-être 3 ou 4000 professeurs de français qui vont se retrouver comme ça avec leur sac à dos pour se rendre dans un autre établissement. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de 3 à 4000 profs de français lettres en remplacement.
Ça signifie pas des licenciements, mais enfin des gens qui sont laissés à l'abandon ?
Ça veut dire qu'il va falloir trouver à les occuper autrement, aux frais du contribuable. Je ne sais pas exactement ce qu'on va leur faire faire et je ne suis pas certain non plus que le ministère ait réellement pesé tout ça correctement.
Au niveau de la qualité de l'enseignement, parce que là, du coup, on vient d'évoquer les conditions qui vont être, si cette réforme est appliquée, les conditions qui vont être les vôtres pour travailler. Au niveau de l'impact sur les élèves et la qualité de l'enseignement qu'ils vont recevoir, qu'est-ce qu'on peut prévoir ?
Alors, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'on nous dit que donc c'est la DGESCO, c'est-à-dire la numéro 2 de l'éducation nationale, Florence Robine, qui nous dit que de toute façon, les élèves n'ont pas forcément besoin d'avoir un professeur en phase 2 pour apprendre. Donc ça, c'est une grande nouvelle déjà. Le ministère n'est pas du tout inquiet par le nombre d'élèves par classe, hein, puisque tous les dispositifs vont se faire en classe entière. Donc que ça soit les enseignements pratiques interdisciplinaires ou que ça soit l'accompagnement personnalisé, donc il n'aura plus rien de personnalisé quand il sera fait par en classe de 30. Et on nous dit donc que les disciplines, ça n'est pas très important, les savoirs disciplinaires ne sont pas très importants et qu'on peut finalement les remplacer par d'autres dispositifs qui sont interdisciplinaires, transdisciplinaires. Et que tout ça ira très bien, fonctionnera très bien. Le problème, c'est que pour pouvoir arriver à un travail interdisciplinaire, bah, il faut déjà avoir quand même quelques connaissances théoriques qui ne peuvent pas venir qui ne viennent pas comme ça de façon innée.
C'est un appauvrissement des savoirs que vous allez pouvoir transmettre, en tout cas.
Alors déjà, c'est une perte d'heures importante pour les élèves. Sur les trois années, 5e, 4e, 3e, les élèves perdent l'équivalent d'un trimestre de cours. Ça, il faut bien que les parents d'élèves s'en rendent compte. C'est un appauvrissement aussi du choix pédagogique, puisque il y a beaucoup d'établissements où les sections latin ou grec ancien ou l'allemand, l'espagnol ou l'italien risquent de disparaître. C'est une disparition des classes bilingues aussi, qui ont fait leurs preuves. C'est un problème aussi de mixité sociale, puisque dans beaucoup d'établissements, on va dire en réseau d'éducation prioritaire, c'est uniquement les options latin ou grec, ou bien les options bilingues qui assuraient cette mixité sociale. Une fois qu'on aura retiré de ces établissements qui sont en réseau d'éducation prioritaire le latin, le grec ou les classes bilingues, et bien évidemment les classes moyennes ou aisées vont déplacer leurs enfants, et ceux qui en auront les moyens les mettront dans un établissement privé.
On disait également hors antenne que ça aurait des conséquences lourdes sur les élèves dont le niveau est fragile.
Oui, alors ça c'est aussi la parole magique de la ministre qui prétend lutter contre les inégalités, lutter contre l'élitisme. Le souci c'est que cette réforme ne propose aucun dispositif pour les élèves fragiles. L'accompagnement personnalisé, on l'a dit, se fera en classe entière. Donc c'est très difficile de pouvoir aider des élèves fragiles en classe entière dans un groupe de 30. Les enseignements pratiques interdisciplinaires qui sont, pour résumer un petit peu grossièrement, une sorte de recherche documentaire et de travail d'exposé, on le sait d'après toutes les études universitaires un peu sérieuses, ne profitent qu'aux élèves qui sont déjà en réussite. C'est-à-dire que les élèves qui ont un certain nombre de connaissances, qui maîtrisent les recherches documentaires, qui ont à la maison les outils ou les livres pour pouvoir compléter leurs recherches, et éventuellement les parents pour les aider à compléter leur travail. Donc effectivement, il n'y a strictement rien, et j'attends qu'on me montre le contraire. Il n'y a strictement rien pour aider les élèves fragiles dans cette réforme, et ça c'est quand même un gros problème.
Ce n'est pas en abandonnant un enfant qui manque d'autonomie qu'on va l'aider, effectivement. Ça semble logique. C'est peut-être là où est le problème, en fait. Les ministres qui pondent ces réformes successives n'ont jamais mis les pieds dans une classe et ne voient l'enseignement qu'à travers la gestion de budget.
Oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de problèmes. On met de l'argent pas forcément au bon endroit. On a un plan numérique qui va coûter des milliards d'euros sur 3 ans, je crois 3 milliards, hein, sur 3 ans, pour équiper des établissements en informatique, en tablette numérique. Je crois que le souci, l'urgence, elle n'est pas là. L'urgence, elle est surtout peut-être d'avoir des classes un petit peu moins chargées, où effectivement on pourra faire un travail un petit peu plus individualisé avec chaque élève.
Est-ce que le mouvement des professeurs est unanime ou presque, ou est-ce que vous êtes encore un peu isolé, les enseignants qui vous opposaient à cette réforme?
Alors là, le ministère est très très fort, hein, son service de communication aussi. Évidemment, il y a une échéance électorale, hein, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a les régionales, mais il y a aussi les présidentielles à l'horizon 2017. Et donc il faut absolument que cette réforme, elle passe cette année, hein, sinon évidemment elle ne se fera pas. Donc forcément, les professeurs mettent du temps à s'informer parce qu'il faut qu'ils assurent leurs cours et en même temps qu'ils consultent les nouveaux programmes qui sont tout fraîchement sortis là, début septembre, il y en a encore qui sont en cours d'écriture. Il faut qu'ils se renseignent aussi sur la réforme du collège et qu'ils lisent les 30 pages du document. Tout le monde ne l'a pas encore fait, mais progressivement, la plupart des collègues qui finissent par être informés sur cette réforme se rendent bien compte de tous les points négatifs qu'il y a à l'intérieur. On part peut-être que cette réforme part il y a de la bonne volonté dedans, mais en tout cas, tout au point de vue de l'organisation et au point de vue pédagogique pose problème.
Vous n'avez pas les moyens d'appliquer cette réforme dans de bonnes conditions, quoi qu'il en soit.
Ben, disons que pour l'instant, on navigue à vue, c'est-à-dire qu'on est dans le flou le plus complet. Les chefs d'établissement ont les informations goutte à goutte, rien ne filtre et c'est très difficile de se projeter pour une rentrée qui est toute proche, hein, puisque les dotations en heures des établissements vont arriver au mois de janvier. Il va falloir que tout soit calé à ce moment-là, avec en plus le problème des formations des enseignants. Hein, il y a 8 jours, le ministère a décidé de former les enseignants pendant 8 jours à cette réforme du collège, au plan numérique et puis au nouveau programme. Tout ça en même temps, ce qui fait que c'est absolument indigeste et que ça va être très difficile à appliquer de façon correcte dans les établissements. Je ne parle même pas des manuels que les éditeurs doivent rédiger par cycle, c'est-à-dire 5e manuel unique, 5e, 4e, 3e, et qui seront très difficilement prêts pour la rentrée de septembre.
Comment vous avez été alarmé au sujet de cette réforme ? Vous ne faites pas partie d'un syndicat ? Il me semble pas. Vous n'êtes pas affilié spécialement à un parti politique. Du coup, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur la question ?
Ben, si vous voulez, moi j'ai appris l'annonce de cette réforme qui date le 8 mars. Je l'ai apprise le 11 mars. J'étais en voyage d'études à Rome avec mes latinistes de 4e. Et j'ai appris sur mon téléphone que le latin et le grec n'auraient plus aucune heure à la rentrée 2016. Donc bon, j'étais un petit peu choqué sur le coup, et c'est comme ça que, puisque je suis président d'une association qui s'appelle Arrête ton char, qui est consacrée à la promotion des langues et cultures d'antiquité auprès du grand public et des scolaires, c'est comme ça qu'on s'est penché un petit peu sur la question de notre démantèlement d'abord, de façon un petit peu égoïste, et puis ensuite évidemment on a lu un petit peu tous les décrets, toutes les circulaires, tous les arrêtés pour s'informer un petit peu plus, pour s'apercevoir finalement que cette réforme eh bien, impactait absolument toutes les disciplines et pas seulement les langues anciennes ou l'allemand.
Pour informer le grand public, les parents d'élèves et pourquoi pas d'autres enseignants, en tout cas le grand public, vous organisez une réunion publique le mardi 10 novembre, comme j'ai dit tout à l'heure, de 18h à 20h à la salle polyvalente de Die. Qui sera présent à cette réunion ?
Alors on a un petit collectif de tous les professeurs de l'établissement, toutes les disciplines seront représentées. On espère voir le maximum de parents d'élèves, évidemment, mais pas forcément, aussi des gens de la société civile. On espère voir aussi des parents d'élèves ou des enseignants d'école primaire, parce que, évidemment, comme je l'ai dit, cette réforme est une réforme qui va être installée pour durer. Si elle dure aussi longtemps que le collège unique, 30 ou 40 ans, eh bien, les enfants de nos élèves collégiens actuellement subiront aussi cette réforme. Donc on espère voir le plus de monde possible pour pouvoir répondre aux questions, toutes les questions qui pourraient être posées et auxquelles on pourra répondre, puisqu'on ne dispose pas encore de tous les éléments, même si on en a beaucoup.
J'espère que cette interview aura attisé la curiosité des parents d'élèves et puis des autres au sujet de cette réforme et que les gens seront soucieux de savoir ce qu'elle contient. Je rappelle définitivement l'horaire le mardi 10 novembre de 18h à 20h à la salle polyvalente où vous pourrez retrouver Robert Delors et d'autres enseignants qui vous parleront de la prochaine réforme des collèges. Merci beaucoup.
Merci.
Restez à l'écoute de Radio Diwa. Vous pouvez retrouver les podcasts de toutes les interviews sur le www.rdwa.fr. À bientôt.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.